L'heure des sages. Quand vous avez insufflé un désir au niveau d'une œuvre, de l'intérêt pour les gens ou pas, faire participer des publics, c'est quelque chose qui est là tout le temps, qu'on ne peut pas palper et donc qu'on ne peut pas enlever non plus.
Karim Amour.
C'est une fois qu'on a fait une action sur un territoire et que les gens ont la mémoire d'un moment, même très court, ou d'une rencontre avec un artiste, ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est indélébile. Et non seulement c'est indélébile, mais en plus c'est comme une graine, ça va produire. Donc voilà pourquoi j'aime faire pour les gens.
Musicien professionnel depuis 1985, Karim Amour est directeur artistique de l'association nantaise Cité Monde. Celle-ci met en place dans les différents quartiers de la ville des ateliers de musique et de transmission orale, mais surtout un grand événement annuel qui est le chœur Urban Voices, rassemblant 1000 choristes et des musiciens professionnels. Karim est un artiste engagé et passionné et s'investit beaucoup dans les quartiers nantais pour les habitants. Cette émission est donc l'occasion d'échanger avec lui sur ses projets, sur cet engagement qui le porte, sur les bienfaits transformateurs de la musique, ainsi que sur la place et le rôle de l'artiste dans la cité.
C'est la première fois que je participe à un événement comme ça et en fin de compte c'est super. Je pense qu'en fait c'est le genre de choses que beaucoup de gens devraient venir voir parce que ça nous donne la pêche. En fin de compte c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la chanson en fin de compte et le fait de retrouver plein de gens aussi autour de soi.
J'aime bien, moi c'est presque cubain, anglais oui mais je ne suis pas assez forte. Mais sinon, ça me plairait. On s'exerce.
Moi, c'est cubain, enfin, soubi, algérien, enfin, arabe, parce qu'en fait, c'est ce que j'arrive à mieux assimiler, à chanter. Je trouve que. Et par contre, c'est vrai que le chanteur américain, c'est un super chanteur qui chante, mais il faut le suivre à la voix. Donc, mais par contre, c'est quelque chose de formidable aussi. Hein.
J'aimerais que parle du projet Urban Voices. Du concept, comment ça se met en place, cette structure-là.
Alors, il faut penser l'association Cité Monde comme une association, comme une compagnie qui structure l'activité d'un artiste ou de plusieurs artistes. En l'occurrence, Christine Amour et moi-même, on a créé cette structure avec d'autres musiciens avec nous à l'époque en 92 et qui avait juste pour objet au départ de nous soutenir dans nos tournées. Dans l'organisation de nos spectacles et de nos créations. Ça nous a permis d'obtenir des petites aides, mais très 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 petites à l'époque, des aides à la création, par exemple pour les allumer Nantes-Cuba et pour d'autres petits projets comme ça. Très vite, à partir de 97-98, notre action s'est dirigée plus vers un aspect culture, territoire, social, avec toujours des créations d'œuvres. Et donc l'activité de l'association aujourd'hui, c'est transmission orale, travail autour de la voix, de la composition, avec des publics très variés, puisqu'on a des ateliers avec des plus jeunes, des ateliers plus individualisés, on a des ateliers collectifs dans des collèges autour du chant choral, et on a une grosse locomotive qui est le chœur Urban Voices, qui est un chœur de 1000 personnes, donc on a généré 2500 inscriptions en 3-4 ans, là, différentes. À peu près 900 personnes chantent en général à la fin sur le spectacle final, Et toutes ces activités dont je vous parle, le travail avec les plus jeunes, sur le quartier, en chorale et jusqu'à Urban Voice, sont toutes posées dans un label global qui s'appelle Tambour à Nantes, qui fait l'objet d'un événement annuel. Le principe, c'est d'arriver à être à peu près de manière équilibrée sur l'ensemble du territoire de la ville. Donc en considérant qu'il y a 11 quartiers à Nantes. Le 11e quartier, c'est le centre-ville. Et dans ce 11e quartier qui est l'Agora, on fait un grand retour de l'œuvre à la fin. Nous avons 10 semaines. Donc les 10 quartiers sont, visités en 2 semaines. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que chaque jour, on est sur une scène différente, dans un centre social, dans une salle de répétition, machin. On peut accueillir entre 60 et 250 personnes. C'est ce qu'on a dans nos chiffres en moyenne. Et chaque jour, pendant 10 jours, on va faire un premier cycle de répétition qui sera le même pour tout le monde. Ensuite, on passe au cycle 2, de nouveau 2 semaines, avec un nouveau cursus qui s'ajoute au premier. Cycle 3, cycle 4 et le cycle 5 en général, ce sont les répétitions du spectacle qui cette année est donné dans les jardins. Et on va en même temps animer la ville avec ça. Ensuite, à l'intérieur d'un cours qui dure 3 heures, on a une partie qui est sur la colonne d'air, donc elle gérait la partie santé de Urban Voices, où les gens réapprennent à se caler, les pieds bien dans le sol, le bassin tout aligné, et comment mettre de la pression et sur quel endroit du corps on met de la pression pour avoir une colonne d'air souple et donc une voix très ouverte. Moi, je pars du principe que chanter, c'est se faire plaisir, et que chanter en souffrance, c'est pas bon. Il y a trop de gens qui ne savent pas placer leur voix et qui vont avoir tendance à forcer, comme ils le font déjà parce qu'ils sont instits, ils gueulent dans leur classe ou que dans le boulot, ils ont tendance à mal utiliser leur voix. Je les remets sur quelque chose d'un petit peu fondamental qui est commun à tout le monde parce qu'on a tous le même corps physique. Il y a un aspect qui est mélodique et rythmique, où on va découvrir une musique d'un pays ou un style de musique ou un truc. Donc, on va avoir un calage physique pour sentir le rythme et la pulsation. Et puis après, il y a le travail vraiment du swing, de la mélodie, etc. etc. Voilà. Puis donc, ça s'organise comme ça sur 5 cycles. Et à la fin, on fait le spectacle avec parfois beaucoup de représentations, comme il y a 3 ans, à la Cité des Congrès, on faisait 6 représentations en 2 jours. On est les seuls au monde à remplir 6 fois la Cité des Congrès, la salle 2000. C'est-à-dire qu'il faut 12 000 personnes à suivre pour le même spectacle. Voilà. Pourquoi ça marche comme ça? Tout simplement parce que chaque chanteur a une famille, des proches. Et que chacun va faire une com énorme. C'est « si tu viens pas, je te parle plus !» Puis moi, je leur donne des exemples de trucs à dire. Alors, vous dites à votre mère ou à votre fils que de toute façon, tu viens pas vous voir au spectacle, il n'a plus l'argent de poche. Ou si je te croise dans la rue, je change de trottoir. On se marre. Mais l'idée que les gens mobilisent autour d'eux, c'est hyper important. Non seulement parce qu'on veut remplir et on quitte le monde qui voit, mais que eux soient vus par leurs proches. Les années passées, on avait des artistes internationaux qui étaient en résidence avec nous. Ça veut dire que lorsqu'ils rentraient après le spectacle, on ne les avait plus. On n'avait pas les moyens financiers de les garder toute l'année, évidemment. Ça veut dire que les 3 premières années d'Urban Voices, même s'il y avait des artistes qui n'étaient pas loin, qui étaient certains locaux, etc., on a fait le choix de garder ça dans un temps donné. C'était au printemps, début d'été, voilà, c'est un temps. Et le reste de l'année, je n'entrais pas en concurrence non plus avec d'autres chorales et d'autres activités culturelles. Puis j'avais besoin aussi de me ressourcer, de voyager, etc. Là, les 2 prochaines années qui arrivent, c'est différent, justement. Parce que je suis le compositeur, je vais être le chanteur sur scène, le musicien. Je forme 4 chefs de chœur pour 4 pupitres de voix, avec 2 musiciens avec moi sur scène, 2 beatboxers. Cette année, 2015-2016, on va créer tout un tas de rendez-vous où on va se retrouver, soit pour des formations complémentaires, soit pour retravailler le spectacle, puisqu'on travaille en 2 actes sur 2 ans. Et en 2016, on finira donc normalement à la Cité des Congrès pour le grand spectacle. Donc là, on se prépare à lancer une vraie activité un peu plus annuelle pour retrouver les gens. Mais en même temps, je préfère que les gens prennent 3 grammes de plaisir dans Urban Voice pour pouvoir les réinvestir dans leur vie par ailleurs, plutôt qu'on les surcharge et qu'on en fasse trop et que ça fatigue les gens. Moi, j'aime bien aussi le fait qu'on y aille doucement et qu'on reste désirable. Hey!
Ressent un profond engagement dans votre démarche. D'où est-ce qu'il vient cet engagement et pourquoi ?
Pourquoi, je ne sais pas, mais quand on cherche un petit peu, moi je m'amuse des fois à faire un retour sur moi-même, un feedback comme ça. Pour ma petite histoire perso, quand même à l'âge de 6 ans, mes parents se sont séparés, donc ils habitaient dans le nord de Paris, donc une famille algérienne, musulmane et tout. Ma mère, je crois qu'elle fait partie des premières femmes, même françaises comprises, à avoir eu le permis de conduire. Donc c'est une famille très moderne, mon père était assez moderne dans sa démarche, boucher halal, etc. Et quand mes parents se sont séparés, je me suis retrouvé très vite, parce que ma mère s'est retrouvée seule avec nous, au sud de Paris, du coup, vers Créteil. Et très vite, moi, j'ai été au quotidien, pratiquement, et pendant les vacances, en contact avec l'éducation populaire, c'est-à-dire des colonies de vacances, des centres de loisirs, des animations de quartier, etc. J'ai quelqu'un de très actif, on va dire. Et en fait, ma mère, ne me tenant pas dans l'appartement, m'inscrivait à tout ce qui était possible et imaginable. Donc j'ai passé déjà au moins 10 ans de mon enfance, entre 6 ans et 16 ans, à être dans le collectif. Et puis très vite, la musique, dans ce prolongement, aussi m'a accompagné là-dedans. Donc très vite, je me suis retrouvé à faire de la musique avec des groupes de musique de rock, de jazz, de chansons, de musique traditionnelle, etc. Bon, j'ai toujours aimé les gens. Par contre, pour ce qui concerne la transmission, à 14 ans, je me souviens, c'était mes premiers cours de musique concrète. Ma mère m'a inscrit à un cours d'arabe chanté avec un groupe de musiciens, en fait. Et ça a été un déclic pour moi, et depuis j'ai jamais arrêté de faire de la musique. C'est vrai qu'aujourd'hui, si je m'implique beaucoup, c'est parce que je pense que cette porte ouverte sur les arts, je l'ai pris, j'aurais pu ne pas le prendre. J'ai toujours trouvé chouette et intéressant d'offrir ce possible aux gens dans la cité. Moi, j'habite une ville comme Nantes où j'ai toujours trouvé dommage que les meilleurs artistes soient cantonnés dans les musées, dans les conservatoires, dans les grandes salles connues, reconnues, etc. et ne sortent pas un peu de ça. Mon côté militant, et là où je suis très heureux à Nantes, c'est que ça, les gens ne le diront pas, parce que ça ne se dit pas. Mais moi, je l'assume, je l'affirme. Ce qu'on a lancé comme mouvement en 97-98 avec nos résidences sur les quartiers, là où on a été un peu critiqué, de « Ouais, t'es quoi, t'es artiste ou t'es animateur ?» Vous voyez, ces questions-là, les gens n'avaient pas compris. Je pense qu'aujourd'hui, ils comprennent. Ils comprennent qu'on peut garder son statut d'artiste, transmettre. On ne sait jamais, quand on donne 0,5 g de quelque chose, ce que ça peut générer derrière. Et je trouve que rien, c'est une chose. 0,5, c'est déjà tout. Donc c'est cette idée. On n'a pas besoin d'en faire beaucoup. Mais simplement être présent à un moment donné, offrir l'opportunité à une personne de voir autre chose que ce monde dans lequel il est, ça peut vraiment susciter au niveau de l'imaginaire énormément de choses, et je trouve que c'est important. Alors aujourd'hui, on est très nombreux à intervenir dans les quartiers, j'en suis très heureux. Peu de gens le savent, mais c'est pas très important. Peu de gens savent qu'il y a des personnes qui ont essuyé les plâtres de tout ça. Et pas seulement à Nantes, hein, aussi dans d'autres villes, c'est pareil. Donc voilà, 17 ans après, je reste toujours aussi motivé à réinventer des choses nouvelles et à continuer à creuser ce sillon, quoi.
Je me souviens que vous aviez dit justement dans une émission de radio de Jet FM, je travaille dans les quartiers pour les gens du quartier. Visiblement, qui est aussi un moteur en fait, les gens du quartier.
Moi j'ai vécu, je vous dis, à Argenteuil, à Créteil, à Corbeil-Essonne, Tarteret, j'ai ma famille, etc. Je sais ce qu'est un emprisonnement psychologique. Je dirais qu'à un moment donné, les murs de notre esprit ont la couleur des murs de la cité. Donc à un moment donné, si on n'est pas capable de comprendre que si dans ces murs de la cité, on fait résonner d'autres sons, d'autres possibles, automatiquement dans l'esprit des individus, on crée ces autres champs de possibles, c'est absolument magique. Donc là, il se passe quelque chose de formidable, c'est qu'on peut sortir d'un système de grisaille, de grande tour, de semblant d'enfermement social, humain, psychologique, etc., simplement par les arts. Et je pense qu'on omet encore de marquer l'importance du rôle des arts et des artistes dans la cité. On s'en rendra compte encore dans quelques années, on verra. Mais je pense qu'en termes de santé publique, de santé sociale, de santé de la cité, hein, en tant que telle, c'est un atout extraordinaire, quoi. Je dirais que c'est comme l'aspirine pour le mal de tête, quoi. Les arts sont des médiums génériques qui permettent de pratiquement passer tout. Les notions économiques, culturelles, socio-éducatives, etc. On passe à travers tout parce que justement, on n'est dans rien. C'est un peu comme l'air, tout le monde respire de l'air, tout le monde y touche, mais personne ne voit l'air. Mais elle est là, l'air est présent, on respire. Les arts, c'est pareil. Donc quand je dis je vais vers les quartiers populaires, etc., c'est pour dire que pendant ce temps-là, je n'oublie pas le reste. Les radios sont au courant, le grand public est au courant, etc. etc. Mais je pense à cette idée que à cet endroit-là et pour ces personnes-là, ça va peser beaucoup plus. Parce que symboliquement, ça va jouer un rôle beaucoup plus important. C'est ça l'idée, quoi.
Ce qu'on oublie de dire aussi, il y a comme un encouragement. La musique, ça leur apprend aussi à rayonner, finalement. Et du coup, on est peut-être aussi dans une société où on n'encourage pas ça. Et c'est ce que vous faites aussi avec vos différentes missions et engagements ici dans les quartiers.
Que vous dire ? Bah, encore une fois, moi, je repars de mon expérience personnelle. Quand j'avais 14 ans et que j'étais à Créteil, dans cet environnement, même si à l'époque, il y avait quand même des éducateurs de rue, il y avait des médiateurs, il y avait plus de monde qu'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Hein. Et donc, à l'époque, à Créteil, j'avais besoin de me construire en tant qu'individu. Si je partais de ce que j'avais, de ce qu'on me proposait, je me construisais avec échec scolaire, échec social autour de moi au niveau du travail et de l'emploi. Ma mère travaillait à l'usine, mon oncle était au chômage, tous les gens qui étaient bossés, c'était compliqué. Un aspect physiologique, bon, je vais aller un peu loin, j'avais des problèmes de mémoire, gamin, et j'avais des problèmes au niveau émotionnel, c'est-à-dire j'avais des surcharges émotionnelles. La musique, en tant que... Alors, musique non personnifiée, la musique en général, est un grand thérapeute, mais un grand thérapeute avec un grand G, c'est un grand magicien. Il vous aide à vous recalibrer au niveau mémoire, parce que la musique, c'est la mémoire, d'accord ? C'est l'émotion. Donc quand on chante une note ou quand on entend une note, etc., on a une charge émotionnelle et il faut savoir vivre avec ça. Elle est neutre de mots, mais elle n'est pas neutre de ressenti, d'émotion, etc. Donc la musique, c'est tout ça. C'est mémoriser les temps, les paroles, les machins. Donc travailler son intelligence, d'une certaine manière. Hein. Et d'un autre côté, physiologiquement, il y a un aspect de ressenti qui touche à l'émotionnel. Et maintenant, si je pousse dans le troisième élément, qui est l'aspect purement physique, donc dans le corps physique, le chant, c'est la colonne d'air. Un chant souple, c'est un chant qui respire. Respirer, c'est vivre. Donc si on fait le lien un petit peu entre les trois, vous vous rendez compte qu'en fait, quand vous avez réglé vos problèmes de mémorisation, c'est-à-dire votre intelligence globale, votre aspect émotionnel, émotif, d'accord, et le vrai rapport au physique, hein, quand je parle de la colonne d'air, vous faites un grand pas en avant dans votre propre histoire de vie, d'accord. Donc, en effet, la pratique du chant, et particulièrement le chant, puisque nous sommes l'instrument. J'aime pas trop mettre des références comme ça, mais Platon dit quand même que la voix est le reflet de l'âme. Ça a été repris maintes et maintes fois. Combien de personnes parlent de libérer la voix pour libérer l'être, etc. Je ne vais pas aller dans les détails. Moi, non seulement je suis adepte de ça, mais je travaille ça. Je pense qu'il y a une relation intime entre la cellule et le son. Hein? D'ailleurs, dans les théories quantiques, on parle de théorie des cordes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des cellules, dedans, ce ne sont que des vibrations. Donc le monde est fait de vibrations. On peut imaginer le ressenti émotionnel d'une vibration. Et encore plus quand on l'exprime soi. Donc, quand on l'exprime en plus et qu'on se sent bien dans sa tête, on a bien travaillé, on se sent bien dans son intelligence, qu'on se sent bien au niveau du rapport émotionnel, on n'est pas débordé émotionnellement et qu'on respire bien à l'intérieur pour émettre un son, on a en plus le plaisir de sentir qu'on fait plaisir aux autres. Et là, on commence à être un être vivant puisqu'on a un être qui relationne. L'être humain a cette particularité qu'il est tribal, qu'il est collectif. Et quand vous isolez des individus de ce champ-là, automatiquement, il entre en souffrance. Le système dans lequel on est aujourd'hui dans notre société, c'est qu'on a réussi à cliver à un tel point, et encore plus avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens s'enferment de plus en plus seuls. Donc en fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils ont l'impression d'être plus libres parce qu'ils sont plus autonomes. mais en réalité, ils le sont moins. Parce que la vraie richesse, c'est celle qu'ont les autres. À votre disposition, à votre convenance, mais celle des autres est plus grande que la vôtre. Donc voilà, c'est un peu cette idée que j'essaie de défendre. L'humanité, de fait, est une humanité de solidarité et de mutualisation, etc. Alors qu'aujourd'hui, on dit « faut être solidaire, faut mutualiser ». Non, c'est con d'en arriver à le dire, puisque non, ça fait partie de notre nature même. Je trouve qu'on est dans un monde comme ça, un peu de sens-non-sens, on ne comprend pas tout. En tout cas, les arts, ce qui est sûr, c'est que c'est très humain, et que cette humanité qu'il y a dans la transmission des arts, l'oralité en plus, dans la voix, moi, me plaît énormément.
Est-ce que ce serait un peu un prétexte, finalement, la musique ?
C'est exactement ce que je dis tout le temps. Je dis aux copains, mais les gars, on ferait de la danse, du tambour ou de l'art pictural basique, hein, pas avec des grandes techniques, qu'on serait dans les mêmes médiums. C'est-à-dire un médium très humain, dans une approche très directe. La danse, la percussion et le chant sont les trois instruments, enfin les trois disciplines musicales, les basiques, qui ont une histoire très 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 longue derrière nous, et qui sont des instruments, je dirais, en connexion directe, quoi. Dès qu'on parle de piano, de saxophone, etc., on passe par une technique d'instrument, alors que dans les trois dont je vous ai parlé, nous sommes pratiquement d'instruments. Que ce soit dans le tambour, parce qu'on peut faire du tambour sur le corps, la danse, bah, c'est le mouvement de notre corps, et la voix, c'est l'expression sonore de notre corps. Donc voilà.
J'aimerais qu'on fasse le lien entre tout ce qu'on vient de dire avec la crise qu'on est en train de vivre, qui est une crise financière. Mais de ce que je ressens et ce que beaucoup partagent, c'est aussi une crise quelque part un peu interne, psychologique, que vivent chacun. Et à l'intérieur de soi, des pertes de valeur, des pertes d'éthique, pertes du sens commun. Est-ce que la musique peut justement participer à redonner du sens dans la vie des gens? Est-ce que c'est une mission qui est importante à adopter pour l'association et pour vous?
Première chose, c'est que je pense qu'il n'y a pas de crise financière. Ça, c'est une première chose. Il y a une crise d'un système financier, mais il n'y a pas de crise financière en tant que telle. Je pense que les êtres sur cette planète ont tout ce qu'il faut, ils sont très très riches, on produit trois fois plus que ce qu'il faut pour se nourrir. Je crois qu'il y a un problème de gouvernance, peut-être, on peut parler au niveau mondial. On ne va pas rentrer là-dedans. Maintenant, autre chose, je n'ai pas de mission. Je veux dire, je ne me sens pas missionné. Je suis un joueur, j'adore jouer, et je joue avec ce qui me passe par la tête, un peu comme un musicien. Alors je pourrais dire par exemple que j'utilise, d'une certaine manière, les instruments que je peux avoir autour de moi. Et comme j'aime les gens et j'aime la voix, bah, j'utilise les voix des gens qui sont autour de moi. Je pense que chaque personne a son parcours intime dans l'histoire. Certains vont, je dirais, résoudre certains problèmes d'ordre peut-être sociaux, d'autres d'ordre physique individuellement, d'autres de réseau, ils vont rencontrer des gens. Quelqu'un arrive à Nantes pour la première fois, fait partie d'Urban Voice, d'un coup t'as plein de potes, c'est génial, enfin, etc., etc. Et ça, je me refuse d'entrer dedans. C'est-à-dire, je me refuse de faire de la surenchère. Par contre, moi, à l'intérieur, j'ouvre tous les canaux possibles. C'est-à-dire que là, par contre, je me donne à moi une mission. Je me dis, je pars d'une personne lambda qui ne sait pas chanter, qui ne connaît personne à Nantes, qui n'est jamais montée sur scène, qui est timide, qui est un peu enfermée sur elle-même. Donc, on parle de repli sur soi. Je pars de cette personne la plus éloignée de tout et je monte mon programme autour de cette personne-là. Et je me dis que si cette personne-là réussit à trouver les outils et les axes pour se faire reconnaître, pas connaître, mais reconnaître en tant qu'individu, rencontrer du monde, prendre du bon temps, ne pas chanter en souffrance, être emmené pédagogiquement et pas être dans l'échec sur scène, c'est-à-dire que je vais emmener des personnes sur scène avec des grands artistes internationaux, donc il faut que cette personne se sente bien, bah, si j'ai emmené cette personne la plus fragile là-dedans, tous les autres ont trouvé une porte d'entrée. Donc, c'est ma façon de travailler. Au-delà de ça, il y a quelque chose d'important, c'est que tous ces gens réunis font résonner une note supérieure qui dépasse l'individu, qui est une note collective. Et ça m'intéresse. Mais il faut que chacun se sente impliqué, il faut que chacun joue de son cœur, de son regard, de son investissement, pour que puisse sortir une harmonique, ça s'appelle une harmonique de tout ça, qui parle de la vie du collectif dans la ville. Donc s'il doit y avoir, plutôt qu'une mission, un message, c'est le mien, ça serait de dire, ok, que tu sois directeur du CHU, parce qu'on a des gens comme ça dans la chorale, ou RSiste sur le quartier de Malakoff ou du Breil, que tu aies 18 ans ou 77 ans, que tu sois d'obédience ou de religieuse, catholique, juive ou musulmane, ou athée ou bouddhiste, etc. On a à peu près tous les mêmes problématiques face à l'œuvre, et notre humilité face à l'œuvre collective, et que lorsque tout sonne, personne ne peut distinguer qui était juif, qui était riche, qui était grand, qui était beau, qui était. Et ça m'intéresse. Donc, on voit bien que de là, sort, dans l'harmonique, sort un parfum, je dirais, d'humanité, qui fait que ce projet-là, des gens le disent dans le documentaire qu'a fait François Gauduchot, on ne sait plus où on est, et ça, j'adore. On ne sait plus si on est à Nantes, au Breil, en France, à l'étranger, on ne comprend plus rien. Parce qu'en plus, on chante dans plein de langues différentes. Et on touche quelque chose qui, en fait, déjà est étranger à nos propres habitudes. Donc, en fait, tout en étant dans une ville qu'on connaît bien, avec des gens qu'on reconnaît, machin, on fait un truc complètement décalé. Et en fait, c'est en soi qu'on voyage, avant tout. Voilà, en soi, on casse certaines certitudes, certaines peurs. Et au contraire, on lâche sur certaines choses. Voilà, on ouvre un peu son cœur et son esprit. Quoi.
Et oui, on l'ouvre aux autres finalement. Et c'est ça, on se connecte à notre humanité. Et pour pouvoir ensuite la partager avec les autres.
C'est exactement ça. Et c'est vrai que si tu n'as pas toi-même, j'irais ri de toi-même, c'est intéressant, hein, ri de toi-même, ou si tu n'as pas toi-même ouvert certaines portes intérieures, il est assez difficile d'accepter le rire de l'autre sur toi déjà. Bah oui, surtout le regard de l'autre sur toi. Bon, je dirais que quelqu'un qui va monter sur scène et qui va se présenter aux autres, il faut déjà qu'il ait déjà vécu quelque chose à l'intérieur de lui. Et le programme, je dirais, d'Urban Voices, comme tous nos ateliers, c'est d'abord un cheminement intérieur pour chaque personne pour pouvoir enfin se révéler et échanger avec l'extérieur. Mais c'est très simple, en fait, quand tu y penses.
J'avais envie de lire un texte de Marc Vella. J'avais envie de reparler un petit peu plus précisément de l'artiste. On en a peut-être beaucoup parlé, mais j'avais envie de le lire et d'avoir un retour là-dessus. Pour moi, un artiste, ce n'est surtout pas quelqu'un qui a un talent et qui se croit au-dessus des autres. À mon sens, la véritable fonction de l'artiste serait celle-ci. Transcender la réalité en invitant les autres à le faire aussi à leur façon. Pour moi, l'artiste, c'est aussi celui qui va faire de sa vie une œuvre d'art avant tout. La grâce n'est pas réservée à Mozart, elle nous traverse tous. Chacun peut y aspirer pour peu qu'il croie en lui-même et en sa propre musique intérieure. Il est clair qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que de voir une personne mise en confiance nous révéler sa richesse intérieure. Voilà, donc c'était un texte de Marc Vella que j'avais envie de partager.
Écoute, dans le documentaire Café François Gauduchot sur Urban Voices 2014, moi je lui dis exactement la même chose, où je lui dis, je pense que l'art ne se trouve pas dans des partitions, dans des conservatoires. L'art est à l'intérieur des individus vivants. Et ce qui fait que le projet Urban Voice fonctionne, c'est qu'en fait on aide chacun à révéler sa fibre artistique. Donc cette notion de révélation, c'est de révéler et de mettre en lumière l'outil qui est notre outil à tous de connexion les uns avec les autres. Parce que accepter d'exprimer ce qu'on est en tant qu'artiste, c'est accepter d'exprimer ce qu'on est en tant qu'être. Je peux dire que ce n'est pas simple. Combien d'individus sont enfermés dans la certitude qu'ils ne sont rien, dans la certitude qu'ils sont une sous-merde, dans la certitude qu'ils ne passeront jamais les échelons, etc. Et à l'inverse, bizarrement, combien de personnes pédantes on peut croiser qui se prennent pour des demi-dieux alors même qu'ils ont une demi-corde à leur arc. Et une demi-corde, il faut dire que ça ne fait pas grand-chose. C'est intéressant quand même ces deux extrêmes, hein. Donc en effet, moi je suis d'accord, il faut se calmer un peu par rapport à cette notion d'être un artiste, encore une fois. On a eu besoin de ça, hein, comme on a besoin de déifier les rois, hein. C'est assez proche, hein, quand on regarde bien. Hein. Le pouvoir divin du roi, le sang royal, et l'artiste, ils allaient ensemble, c'était un package. Non mais c'est vrai. Oui, je suis d'accord avec ce monsieur pour dire que même si ça emmerde certains, parce que pour certains c'est bien de penser qu'on est unique, moi je pense que cette unicité, on l'a de fait à la naissance, de par notre empreinte digitale et notre empreinte vocale. Il n'y a pas deux personnes qui ont la même couleur vocale. Intéressant. Voilà, donc oui, je crois que potentiellement, tout le monde peut s'exprimer artistiquement. Tout le monde a quelque chose à dire.
J'avais aussi envie de faire un autre partage de Jean Boschko. C'est un metteur en scène, poète et réalisateur.
Ouais.
Et là, j'avais envie de reparler un peu plus précisément de la place de l'artiste et aussi de son rôle dans les cités.
Mmh. Dans les cités ou dans la cité ?
Dans la cité. C'est vrai que là où je veux aborder cet aspect de l'artiste dans la cité, c'est aussi en lien avec ces quartiers dits populaires qui, quelque part, peut-être peut-être du fait de leur éducation, peut-être du fait de certains conditionnements et aussi du fait du manque d'infrastructures parfois, qui a peut-être une difficulté d'accéder à la culture finalement. Et justement, c'est ce qui se fait avec Tambour à Nantes. Vous
avec
allez.
Un partage aussi.
Voilà.
Il y a une personne qui aujourd'hui travaille d'ailleurs dans le patrimoine au niveau national, quelqu'un de bien, avec qui j'ai bossé, qui était au conseiller de Jean-Marc Ayrault pour la culture, justement au moment du lancement du voyage à Nantes, qui me disait que lui, pour lui, la démocratisation de la culture, c'est mort. On l'a loupé, on ne sait pas faire. C'est intéressant. Pourquoi il dit ça? Alors même qu'on est en train de travailler un projet qui s'appelle Tambour à Nantes, qui est exactement ça. C'est de la démocratisation de la culture. Lui, il a dit ça parce qu'il pense qu'à part des gens comme moi et quelques autres tarés qui croient encore, plus personne n'y croit dans les institutions. Première analyse politique comme ça au passage. Mais je crois qu'ils se sont mis le doigt dans l'œil tous sur leur analyse de ce qu'était la démocratisation de la culture. Parce que de quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'uniformisation de la culture? Est-ce qu'on parle de dire tous les quartiers populaires doivent connaître Kant, machin, truc, bidule? Je veux dire, une liste de prérogatives comme ça qu'on aurait donnée en disant la culture, c'est ça. Allez sur les quartiers populaires. Je veux dire, je prends n'importe quel mec, justement, de Nantes, du centre-ville ou d'un autre quartier qui ne connaît pas la culture, par exemple, turque. Je vais l'emmener dans un appartement, il va voir la culture turque. C'est super puissant. C'est riche. Et les gens sont cultivés. Mais ils sont cultivés par rapport à un domaine qui est un domaine d'un terreau dans lequel ils ont évolué de génération après génération. Le problème de la culture dans ce pays, c'est pas le fait que les gens en aient ou n'en aient pas. Tout le monde a sa propre culture. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à créer de pont entre ces cultures. Et pourquoi on n'arrive pas à créer de pont? Parce qu'on ne donne pas l'autorisation. Et c'est là le vrai problème. D'autoriser et de donner une carte blanche à chacun pour exprimer justement sa propre culture. Et une fois qu'elle est exprimée, elle peut commencer à se mélanger. D'accord? Mais le problème, c'est qu'on dit justement, ça c'est de la culture. Donc on estampille un lieu culturel. Et puis sur là-bas, ça c'est un lieu social, par exemple. Donc le problème ne vient pas d'une non-connaissance ou d'une culture absente sur des populations de quartiers populaires. On vient d'un manque de culture de la part de ceux qui estampillent la culture, de manque de culture de leur propre territoire et des habitants qui sont chez eux. Donc moi je dis qu'il faut lancer un nouveau programme éducatif pour les gens qui sont en poste dans les milieux culturels pour leur apprendre ce qu'est la culture de leur pays, qu'ils ne connaissent pas.
Il y a aussi une forme de supériorité derrière.
Bah évidemment, les médias, la culture et la politique sont quand même les trois pouvoirs. Pouvoir médiatique, pouvoir politique et le pouvoir. J'ai dit culture et communication, ça va ensemble aussi quelque part. Tout ça est lié, enfin bref. C'est-à-dire qu'en effet, c'est les gens de l'élite. Malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, il y a de l'inculture généralisée, c'est-à-dire qu'on connaît que ce qu'on connaît. Puis si on décide que la culture c'est ça, on connaît tout. Mais le problème c'est que la culture c'est pas ça, c'est beaucoup plus vaste.
Le petit texte, allez. Pour lui, le travail de l'artiste n'est pas de régler les problèmes dans la cité, d'animer les foires, de faire passer le temps pour faire oublier les choses essentielles. L'artiste n'est pas un travailleur social, mais il est là pour interroger et, s'il se passe quelque chose, les gens se sentent mieux, ils ont une image valorisante d'eux-mêmes. Donc ça rejoignait aussi un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure.
On revient à ça, on revient à l'idée que... Alors pendant un moment, j'avais donné une autre explication. Je me souviens, c'était une réunion, Jean Blaise était là d'ailleurs, et j'avais un peu balancé ça pour lui, parce qu'on se connaît bien avec Jean Blaise du voyage à Nantes, parce qu'on avait fait les Allumés Cuba ensemble et puis d'autres choses. Moi j'ai toujours été un fervent admirateur de son travail, parce que c'est un mec génial. Mais je me souviens qu'il avait balancé une fois une phrase en disant, et il avait raison mais pas complètement, c'est pas en faisant les pieds au mur dans les quartiers qu'on réglera les problèmes des quartiers populaires. Vous voulez dire par là qu'à un moment donné, on est limité par l'action culturelle pour régler des vrais problèmes sociaux. Et je suis d'accord. Mais, il y a un petit bémol. Là où, en effet, des acteurs sociaux n'y arrivent pas, là où l'économie n'y arrive pas, là où l'éducation populaire et l'éducation nationale, l'école n'y arrive pas, l'artiste peut toucher peut-être dans un inconscient, dans une autre partie de l'être, peut toucher en remettant en mouvement des choses. Et c'est ça que j'ai voulu dire. Voilà, il y a des petits jeux qu'on connaît où tu le touches à peine et le truc rentre dans un mouvement perpétuel. Cette espèce de petit machin qu'on met sur des tables ou dans des bureaux, tu sais, puis il y a cette espèce de deux baguettes, trois baguettes qui s'entremêlent, puis tu touches un peu, puis ça se met à tourner, puis d'un coup ça s'arrête plus. Pour l'arrêter, il faudrait mettre la main. Bah moi, je compare l'individu à ça. C'est-à-dire qu'un individu qui n'a pas été mis en mouvement, bah, il attend juste qu'on le mette en mouvement. Donc pour le mettre en mouvement, des fois, c'est rien. C'est quelque chose de magique. C'est juste une participation à un petit événement, un film, une projection, une discussion.
C'est aussi parce qu'on sollicite la part créative de ces individus. Ce que finalement, on ne fait pas en essayant de résoudre des problèmes d'un point de vue social, etc.
Exactement. Et à partir du moment où tu arrives à mettre ça en marche, par le biais, en effet, d'un stage, d'un atelier d'écriture, d'une œuvre, d'Urban Voice ou autre chose, tu peux être tranquille. L'individu sait exactement ce qu'il a à faire derrière ça, une fois que c'est mis en route. Une espèce d'éco-fonctionnement où il n'y a pas besoin de nouvelles dynamiques, le truc est en route, et du coup, bah, la personne va vivre son histoire. Et là, on a tout gagné. Et là, on n'a pas besoin de faire de l'assistana, du machin. Ce mouvement s'est mis en marche à l'intérieur et elle a compris qu'il n'y avait plus besoin de personne pour ça. Et c'est le plus important.
Une remise aussi en place de la confiance en soi.
C'est lié. C'est un mélange de confiance en soi, de reconnaissance avec soi-même, de valorisation de l'individu, de valorisation de ses propres capacités. Bref, et tu as des gens de très grands talents. C'est-à-dire, bon, on a eu du monde ici, hein. On a eu 650 jeunes et 3000 adultes à peu près, hein, en atelier. Je ne parle pas de gens qui passent, hein, je parle de gens qui font des choses avec nous. Eh bien, je peux vous dire que sur le paquet, il y a un pourcentage de gens qui aujourd'hui font le métier, dans les plus jeunes qu'on a eus, ou ont complètement changé leur vie suite à ce genre d'expérience. Mais de ça, on ne parle pas. Parce que pour moi, c'est pas quelque chose qu'on doit reprendre à notre compte, mais on doit redonner pour le compte de la personne. Peut-être la personne un jour dira dans son histoire « Ah, il y a eu 2-3 rencontres qui ont changé les choses. » Parce que moi, je peux pas être sûr à 100% que ce soit lié à nous. Mais j'ai vu ce qui s'est passé, hein. J'ai vu des trucs à des moments, c'était notable. L'évolution d'un individu en 6 mois, un gamin qui était complètement replié sur lui-même, qui d'un coup se révèle et t'apprends par les parents après qu'il a fait ceci, cela, qu'il est parti. Et pour ça, je vous disais tout à l'heure, je veux pas savoir ce qui se passe après de trop. Parce que je ne prépare pas un cahier des charges par rapport à ça. Pour moi, c'est juste l'idée de mettre en mouvement, d'être là pour ça, et après, je laisse faire. Sinon, ça serait de l'hégémonie, quoi. Ou un truc sectaire, enfin, je ne sais pas. Ça serait quelque chose d'enfermant. On est là pour se rendre libre, pas pour s'enfermer.
Comme quoi, l'artiste est primordial dans la cité, et qu'on devrait développer plus ça, la création, donner plus de place aux artistes, plus de moyens.
Je pense que le pire des freins, ce sont les petitesses de la pensée politique, pour moi. C'est-à-dire quand on a des gens au plus haut niveau qui n'ont pas l'esprit suffisamment large, ouvert, leur imaginaire et leur générosité plein pot, c'est le pire des obstacles. Et qu'en effet, un des principaux atouts dans une société, c'est l'imaginaire. Tout ça est porté depuis des millénaires par les arts, par les artistes et par les techniques, hein, d'expression artistique au service de l'humain. Hein. Et je suis désolé, mais ça commence dans les grottes, quoi. Ça commence avant qu'il y ait des partis politiques, ça commence avant qu'il y ait même des armes, ça commence avant tout, ça commence même avant Dieu. D'accord ? Donc c'est intéressant quand même. Moi j'ai parlé avec Dieu l'autre fois, il m'a dit « Ouais, c'est vrai, je suis pas légitime, il y avait déjà les artistes avant moi. » Je dis « Ouais, mais oui, c'était là avant toi. » T'es arrivé après pour servir le politique, tu sais bien. Oui, c'est vrai, ils avaient vraiment besoin de moi. Il fallait réorganiser un petit peu tout ça, bon voilà. Mais n'empêche que Dieu et l'artiste étaient vachement liés. Parce que l'artiste, au début, se demandait bien d'où venait cette inspiration. D'accord ? Bon, très vite, le lien, comme ça, c'est fait. Dieu se marre. Dieu se fend la gueule quand il voit la supercherie dans laquelle on est arrivé en son nom. Et comme il n'a pas signé au bon endroit, du coup, on lui a repris sa parole. Donc, il a plus la parole aujourd'hui. Tant pis, hein, c'est son problème. C'est pas le nôtre. Nous, nous ne sommes que des hommes.
L'artiste qui a la parole.
Exactement. Nous, on ne sait pas. N'empêche que l'artiste s'est pas fait flouer par rapport à ça. Il s'est pas laissé embarquer. Hein. Certains, oui, mais on est resté assez libre par rapport à cette parole-là, cette parole divine. Donc, nous, on joue plus avec la nature. On serait plus proche des chamans et des druides, d'une certaine manière.
Merci beaucoup, Karim. Merci.
Merci beaucoup.
C'était l'heure des sages avec Karim Amour, une émission réalisée par Anne-Claire Rebibeau. Merci à Karim ainsi qu'à sa chaleureuse équipe pour leur contribution et les extraits du grand concert Urban Voices 2014 sur la route des Indes, ainsi qu'à Jet FM pour les extraits de leur reportage sur cet événement. À bientôt!
Cherchons.